Alors ce soir, on est très content de recevoir Olivia Granville, donc à la librairie Les Rebelles Ordinaires, qui va nous parler de son travail d'adaptation du formidable texte d'Éric Vuillard, La Guerre des Pauvres, pour un spectacle chorégraphié et lu en scène qui aura lieu à la Coursive, donc les 4 et 5 février prochains. Eh bien, on est parti pour une bonne soirée. Alors, Olivia, bienvenue. Merci beaucoup de te joindre à nous.
Moi, je suis la mauvaise élève, parce que si ça se trouve, je n'ai pas mis mon téléphone.
Ah, tu veux ton sac ? Attends, il n'y a pas de problème.
Donc, peut-être je vais quand même vérifier.
Regardez,
parce que...
en direct, voilà, on y va.
Voilà, attends, je vais quand même faire ça.
Je te tiens ton bonnet.
Vite fait.
Voilà.
Je suis très, très contente d'être là, moi aussi.
Nous aussi.
Parce que voilà, quand je suis arrivée, je me suis dit, ça serait chouette qu'on puisse organiser des choses avec les librairies autour, dont celle-là qui me plaît beaucoup.
Ah bah,
voilà. Super. Qui a un choix absolument remarquable.
Merci.
D'ouvrage. Voilà.
C'est vrai qu'on est un peu dans le thème. Hein. On est un peu, voilà. Déjà, est-ce que vous avez lu est-ce qu'il y a des gens qui ont lu non, pas du tout. Ouais, ok, mais on est plutôt sur une majorité de non. On est d'accord, donc déjà, est-ce que vous savez de quoi ça parle? Ouais, oui, vaguement, ok, on va refaire un petit topo vite fait. Et dernière question, est-ce que vous savez qui est Éric Vuillard ou pas du tout? Voilà, un peu son boulot, ouais. Alors là, on a attention, on a, on a du challenge à ma gauche. Voilà, c'est le ping, ouais. Ouais, vous aimez beaucoup aussi. Ouais, nous, c'est un auteur qu'on aime beaucoup. C'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, généralement, c'est des textes courts, donc ça se lit bien, enfin, c'est très chouette. Du coup, justement, donc Éric Vuillard, pour vous le situer, très vite fait, c'est quelqu'un qui fait des récits. Donc, il a une base d'historien, et lui, ce qu'il aime, c'est prendre, en fait, les dessous très humains, on va dire, de passages historiques, souvent pour démontrer l'absurde règne des puissants sur une période. Donc voilà, il a eu le prix Goncourt voilà, pour un roman, enfin un récit qui raconte en fait la réunion qui a réuni les dignitaires SS et les industriels à la veille de l'Anschluss, donc de l'invasion de l'Autriche qui a déclenché vraiment hein, l'offensive du Reich. Et il décrit très très bien à base d'archives ce qui se passe et il décrit les petites humanités de chacun.
Ou des humanités.
Ouais, voilà. Généralement, le cynisme du pouvoir, il a un style incroyable. C'est quelqu'un qui a un style incroyable. C'est quelqu'un qui est complètement... à la limite, c'est un plateau vivant, lui, hein, en termes de... C'est-à-dire, nous, on l'a reçu ici pour son livre sur l'Indochine, qui là vient de sortir en poche, qui s'appelle Une sortie honorable. On ne l'arrêtait pas. C'était... voilà, c'est un mec qui est passionné, qui est très comme ça. Et du coup, ses textes le sont aussi. Et La Guerre des Pauvres, pour vous situer, c'est un texte qu'il a sorti au moment des Gilets jaunes. Donc lui, il était tout auréolé de son Goncourt à ce moment-là, on ne l'attendait pas là-dessus. Et c'est un texte qui raconte des révoltes paysannes, notamment au moment où l'imprimerie a rendu la Bible accessible à tous, et où donc des humbles s'en sont emparés et ont commencé, en Angleterre, en Allemagne et tout, à se rendre compte que... Le message, c'est pas trop quand même de vivre dans les dorures et tout ça. Et donc, est-ce que finalement, on ne se ferait pas un peu avoir à payer des impôts pour l'Église et compagnie? Donc, il y a une succession de personnages dans La Guerre des Pauvres qui ont tous existé, qui sont des espèces de prédicateurs, comme ça, hein, et qui ont porté des paroles, qui ont mené à des révoltes paysannes, où généralement, après, ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, c'est-à-dire, il y a eu des répressions très, très fortes sur ces révoltes, mais qui ont beaucoup ébranlé, à l'époque, le pouvoir en place. Donc voilà, ça raconte ça, en 60 pages, et avec une verve assez incroyable. Mais ça a été pour nous le texte le plus difficile à vendre d'Éric Vuillard, qui pourtant est très...
Ah oui.
Ouais, ça a été, alors que ça vaut moins de 10 euros, ça fait moins de 100 pages, mais le titre, c'est « La guerre des pauvres ». Et ça a été dans un contexte de gilets jaunes, c'était quelque chose de... Il y avait les gens qui y allaient, mais qui y allaient parce que voulaient lire ça, et puis tous les autres qui sont les clients de littérature habituelle étaient plutôt dans une retenue. C'est pas le texte qui s'est le plus vendu, et c'est après, une fois que la crise des gilets jaunes est passée, que c'est un texte qui a redécouvert son public un petit peu. Voilà. Et donc là, maintenant qu'on a introduit, on va te demander évidemment comment... Tu t'es retrouvé avec ce texte dans les mains déjà, et comment l'idée incroyable est venue de le mettre sur un plateau?
Alors, d'abord, moi aussi, je suis fan d'Éric Vuillard, donc que j'avais découvert avec L'Ordre des Choses. C'est L'Ordre des
ouais,
Choses.
Oui, c'est
hein.
Ça, oui. C'est le roman dont on parlait là sur L'Anschluss.
Et puis après, L'Ordre
du Jour, oui, L'Ordre
du Jour. Voilà, à chaque fois, je me trompe. L'Ordre du Jour.
Mais je dirais oui à tout ce que tu dis. Voilà, c'est le. Voilà.
Donc, voilà, après, j'ai lu Congo, qui a d'ailleurs été amené au plateau aussi par un chorégraphe congolais qui s'appelle Faustin Lenikula, qui était formidable. J'ai lu 14 Juillet. Enfin, j'ai commencé à lire beaucoup de livres de Vuillard, d'abord parce que c'est une langue que j'adore, parce que c'est un engagement politique qui me parle, et puis parce que j'adore l'histoire, en fait. C'est vrai que je trouve ça toujours très passionnant d'éclairer le présent au travers d'un récit historique, et c'est quand même ce que fait Vuillard avec un talent incroyable. Et donc, je guettais un petit peu quand même, qu'est-ce que... Je cherchais un livre, bon, j'expliquerai pourquoi je travaille avec la littérature, pourquoi c'est important pour moi dans mon métier de chorégraphe. Mais j'étais un peu à l'affût. Et au moment où ce petit livre est sorti, moi, un peu comme beaucoup de gens autour de moi et de ma génération, j'avais eu un petit retard à l'allumage, je crois, sur la question de la guerre des pauvres, sur la question des gilets jaunes, pardon. Voilà, je faisais partie un petit peu de cette génération où je m'étais dit, ouais, ok, c'est bizarre, ces gens qui descendent dans la rue pour défendre leur essence, alors que nous, on essaye de parler d'écologie. Enfin, j'avais eu un petit truc où j'avais pas bien compris, et c'est mes enfants, en fait, qui m'ont un peu recadré, assez violemment d'ailleurs, et où je me suis dit, mais en fait, oui, il y a un truc là que je mesure pas bien. Il y a des gens qui font 80 km aller-retour tous les jours juste pour travailler, quoi. Donc, la question, elle est quand même ailleurs. Et quand il a sorti ce petit bouquin-là, en reliant cette histoire de soulèvement populaire à toute une chaîne de soulèvement populaire, parce que c'est ça qui est très beau dans ce tout petit livre, c'est que c'est vraiment un espèce de flot, quoi, un flot de paroles. C'est-à-dire que le livre ressemble au personnage de Thomas Munzer, qui est donc un prédicateur, mais qui est un tribun, quoi, vraiment, et qui prend la parole comme ça et qui arrive à soulever les foules et soulever ces peuples de paysans qui, effectivement, ne savent rien, en leur disant, mais en fait, vous pouvez vous emparer de votre propre pouvoir. Effectivement, vous avez accès à Dieu sans passer par l'Église, sans passer par l'État. Révoltez-vous contre les princes, révoltez-vous contre les puissants. Bon, évidemment, il n'avait pas beaucoup de chance de s'en sortir, hein, ça c'est certain. Mais ce que raconte Vuillard, c'est qu'en fait, il raconte bien sûr l'histoire de Thomas Münzer, donc ce prédicateur dissident de Luther, mais en amont de ça, il fait une espèce de rétro-pédalage et il raconte une suite de soulèvements comme ça, qui sont toujours le fait d'un homme, souvent d'un homme qui vient plutôt d'un milieu simple, qui à un moment donné se lève et dit non, quoi. Et il est écrasé, parce qu'à chaque fois ils sont écrasés, et il y en a un autre qui se relève, et il y en a un autre qui se relève, et il y en a un autre qui se relève. Et ça, en fait, c'était chorégraphique, quelque part. Enfin, il y avait une chose où il y avait à la fois, dans la parole du tribun, et dans la parole en général, il y a quelque chose de l'ordre du corps qui est en jeu. C'est-à-dire que la danse, c'est pas seulement faire des gestes, hein, c'est quand même tout le corps qui est en jeu. Donc, il y a dans la figure immobile d'un tribun comme ça, qui parle avec un souffle pareil, bien sûr, ça va s'exprimer par les mains, par le visage, etc. Mais il y a une énergie de corps qui, pour moi, est complètement chorégraphique et mentalement chorégraphique. Et puis, il y a le texte lui-même qui est cette suite de soulèvements comme ça, qui est vraiment dans un espèce de mouvement perpétuel jusqu'à la révolution qu'il appelle de ses voeux, que moi j'appelle pas de mes voeux, parce que la révolution, pour moi, c'est la révolution. Donc je trouve que ce soulèvement, en fait, il est beaucoup plus fort, en fait, que ça. Et parallèlement, il y avait eu quelques années avant, une très belle exposition au musée du Jeu de Paume qui s'appelait Soulèvement, dont le curateur était Georges Didier Huberman, qui est un écrivain aussi historien de l'art. Enfin, c'est un drôle de personnage, Georges Didier Huberman, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a écrit des textes absolument magnifiques sur l'art. Et qui avait fait cette exposition, qui a fait polémique d'ailleurs, mais qui était de rassembler des objets plastiques, des documents historiques, sur l'idée du soulèvement, mais dans tous les sens du terme, aussi bien le soulèvement d'un tissus qui s'envolent. Cette expo m'avait vraiment marquée, quoi. Et ça a été en fait un outil d'écriture chorégraphique. J'ai rapproché un peu les deux, le catalogue de cette exposition et le livre de Vuillard.
Et l'idée justement de la disposition, parce que c'est, on aurait pu penser à justement de la danse très interprétative, d'être en costume, on aurait pu penser à un truc comme ça, avec une foule évidemment. Là on est dans un dispositif qui est complètement différent, qui est même quasiment à l'opposé, avec un plateau très sobre dans le noir, avec un dispositif par contre de lumière qui est très travaillé, un comédien seul en scène qui déclame le texte, enfin qui le lit avec incarnation, on va dire. Et deux danseurs, alors il y a deux compositeurs de musique électro aussi derrière qui font la musique en live, et deux danseurs qui ponctuent, enrichissent le texte, mais de manière non interprétative.
Oui. En fait. Et un plasticien qui a amené une installation aussi d'objets,
okay.
Qui est Denis Mariotte, qui est quelqu'un qui est musicien au départ et qui réalise des installations plastiques. Pour la petite histoire, ça a été le compagnon de Maggie Marin pendant très longtemps. Et c'est quelqu'un qui travaille sur une chose très millimétrée comme ça musicalement et qui en même temps fait des installations très pauvres, parce que cette mise en scène est effectivement... Il y avait aussi une volonté, d'abord c'est pas une volonté, c'était une réalité, hein, parce que moi avant d'être directrice de centre chorégraphique, j'ai fait des spectacles avec des moyens très pauvres, et donc on avait des moyens très pauvres aussi, et on voulait aussi des moyens très pauvres. Quand j'ai commencé à travailler sur le texte, moi aussi j'avais, parce que ce texte est extrêmement pictural, voire même cinématographique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est Games of Thrones, quoi. Vraiment,
ouais,
c'est,
ouais, vraiment
c'est des batailles, c'est des trucs, ça. Il y a vraiment un souffle, c'est hallucinant. Et en même temps, c'est les tableaux de Bruegel que j'adore, hein. Toute cette époque du Moyen-Âge, hein, qui n'a pas grand-chose de moyen, d'ailleurs.
Intense.
C'est vraiment intense et c'est absolument passionnant, j'adore. Et je rêvais, en fait, d'avoir justement d'énormes moyens et de me mettre à habiller les gens. Et en fait, je suis partie sur des pistes, ça ne marchait pas du tout, quoi. Parce qu'en fait, ce texte suffit complètement à lui-même. Et d'une manière générale, de toute façon, quand on travaille, quand on amène un texte au plateau, et surtout avec ce que je fais moi, c'est-à-dire de la danse contemporaine, mais aussi ce qu'on appelle de l'écriture de plateau, surtout ce qu'on appelle de l'écriture de plateau, c'est-à-dire que la danse est un des médiums que j'utilise, mais il n'est pas le seul. Il cohabite avec du texte, du son, de la lumière, des objets. Et tous ces éléments-là ne sont pas là pour juste s'étayer ensemble, être le décor de quelque chose, être l'accompagnement du truc, être l'illustration du texte. Surtout pas, en fait. Chaque objet, chaque médium existe pour lui-même. Parce que vous êtes là, spectateur, et que c'est vous qui allez terminer la pièce. C'est le sens de l'art contemporain, c'est ça. Hein. C'est vous qui allez faire le travail de ce qu'on vous propose à voir. Mais vous allez lire, vous allez avoir votre propre lecture personnelle de tous ces éléments rassemblés et orchestrés sur le plateau. Donc c'est vrai que cette pièce, elle est... On l'aime particulièrement, vraiment les musiciens, Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando, avec Laurent, Laurent Poitronneau dans sa manière d'amener son intelligence du texte, voilà, avec Yves Godin sur la lumière, avec Denis Mariotte sur la scénographie, où en plus il s'est trouvé qu'on a commencé à travailler cette pièce et le Covid est arrivé. Donc en fait on s'est retrouvé à être en résidence sur cette création et à ne pas savoir quand est-ce qu'on allait jouer la pièce, si on allait la tourner. On créait dans un lieu mythique à Paris qui s'appelle la Ménagerie de Verre, et qui est un lieu, moi, que j'aime énormément et où j'ai fait beaucoup de créations parce que c'était une des rares personnes qui soutenait le type de travail. Et que là, on a pris en largeur, hein, c'est-à-dire d'une manière très panoramique, mais aussi parce qu'on a pu se permettre de dire « mais en fait, on ne sait pas si cette pièce va tourner. On n'a aucune idée, on s'en fout un peu là, parce que on est juste là pour travailler ensemble et on va pouvoir se permettre de faire un peu ce qu'on veut, ce qu'on a vraiment envie de faire, sans se demander si ça va pouvoir tourner, comment est-ce que ça va être transposé sur un autre plateau, comment... Ça nous a donné beaucoup de liberté, en fait. Donc on a eu énormément de plaisir à faire cette pièce et à travailler un peu par groupe, où on s'est retrouvés tout seul avec Denis et son installation, et Yves et moi, puis avec les musiciens. Et puis après, on a tout mis ensemble, comme ça. Donc elle a une histoire un peu particulière dans cette pièce.
Justement, cette équipe, tu l'as réunie comment, en fait, sur ce projet? Parce qu'il y a vraiment des univers très différents qui viennent se rencontrer. Tu l'as réunie autour du texte, tu l'as réunie autour de tes affinités avec les gens avec qui tu aimes travailler. Tu y as pensé d'abord, ou c'est des gens qui sont venus s'agréger après?
Alors, je l'ai vraiment construit autour des affinités des gens avec qui j'aime travailler, puisque en fait, bah, Yves Godin, je travaille depuis déjà presque 15 ans avec lui.
Ah oui, on peut parler d'affinités, oui.
Ouais. Benoît de Villeneuve et Benjamin, je les avais rencontrés avant, où je travaillais en fait... Donc, comme je disais, j'étais un peu à l'affût de textes. Hein. Donc, j'avais deux textes en magasin. Finalement, j'ai monté les deux. Un sur Yves Klein, l'immatérialité de l'art, et l'autre sur la guerre des pauvres. Et quand j'ai rencontré Laurent, je lui ai fait lire les deux.
D'accord.
Donc, je ne savais pas encore... voilà, j'étais à ce moment-là associé au lieu unique. Et il se trouve que très vite, ça a coïncidé à cette période du Covid. Donc, le directeur du lieu unique, Patrick Guillard, m'a aussi dit bah, « Je voudrais monter une soirée de performance. Qu'est-ce que tu as à proposer ?» Donc, là aussi, c'était assez ouvert. Et puis, Denis Mariotte, je l'avais rencontré via Yves et j'avais vu une instance qui était justement ces petits drapeaux, mais je ne veux pas tout dévoiler.
Ouais, ouais.
Qui sont des papiers de sopalin, en réalité.
C'est
du sopalin, ouais. C'est vraiment des pauvres petits drapeaux, quoi.
Ouais, mais c'était
Martin Gilles-Henriquet et Éric Nébier, qui sont les deux danseurs qui étaient dans des bandades, ceux qui ont vu des bandades, vous les avez vus, sont l'un un danseur argentin et l'autre un danseur burkinabé, qui sont des jeunes danseurs d'à peine 30 ans. Et pour moi, c'était important, cette présence de ces danseurs, de par leur jeunesse, et aussi par le déploiement géographique, hein, que leur présence amenait, parce que j'avais envie de mettre en jeu l'actualité finalement de ce texte et le fait que ces soulèvements populaires, malheureusement, ils continuent à exister un peu partout dans le monde aujourd'hui même. Donc ça n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire d'aujourd'hui et c'est vraiment ce qui est très présent dans le texte de Vuillard et c'est ce que j'avais envie de mettre en scène, quoi.
Et du coup, par exemple, le choix de la musique très contemporaine avec l'électro, ça s'est fait aussi dans cette volonté un peu d'inscrire le texte dans le présent, ou c'est plutôt un accompagnement plutôt de la chorégraphie et de la mise en lumière et de l'espace?
Alors Benoît et Benjamin, ils travaillent ensemble, mais ils travaillent aussi séparément.
D'accord.
Et ils n'ont pas du tout la même manière de faire. Il y avait une complémentarité qui me plaisait beaucoup. C'est que Benoît, il fait une musique effectivement électronique qui déploie vraiment des espaces, quoi. Enfin, qui ouvre l'espace, qui est très lumineuse, qui est très spirituel presque, je dirais, en fait, qui a vraiment une espèce de beauté comme ça, comme ce texte a une beauté, cette colère a une beauté, etc. Et Benjamin, il travaille plus sur du design sonore, en fait, donc il prend aussi des sons concrets. Donc comme il n'était pas du tout question de fabriquer des images illustrative du texte, je savais que Benjamin, lui, pouvait amener des paysages sonores, vraiment. Donc, aller vraiment chercher des sons où, du coup, là encore, j'ai pas envie de tout dévoiler, mais on voit, en fait, ces peintures de Bruegel, et on les entend, en fait. On les voit pas, mais on les entend. Et donc, il y avait ces deux dimensions-là qui étaient importantes.
Et la notion de la... Il y a une colère perpétuelle dans ce livre. On sent même d'ailleurs que l'auteur est habité par cette révolte lui-même. Hein. Il a un parti pris, c'est sûr. Mais c'est une révolte très puissante et une révolte très, je dirais, légitime, quasi naturelle, quasi d'ordre, voilà, comme ça. Pas d'ordre divin, mais il y a quelque chose comme ça, un peu. Est-ce que... toi, tu as voulu retranscrire vraiment ce sentiment-là à un moment où plutôt tu as pris l'angle plutôt de l'adaptation littéraire, vraiment, enfin du texte, de l'ambiance, de ce que ça raconte, ou est-ce que ce sentiment-là de révolte, tu as voulu le communiquer par exemple aux spectateurs ou des choses comme ça, où tu t'es dit ça par contre, ça appartient à chacun, comme tu parlais d'un tissage
Moi, je suis quelqu'un de très en colère, hein,
ouais,
quand okay. même, de naissance.
Ça nous va, ça nous va.
Donc, c'est quand même un peu mon moteur. Hein.
Ouais.
Même si on m'a souvent dit que c'était pas un moteur positif, mais bon, c'est quand même mon moteur, quoi. La colère est une énergie vitale, comme c'est dit d'ailleurs dans des bandades. Donc, c'est vrai que la colère de Vuillard, elle me parle. La colère de Thomas Müntzer, elle me parle. Je trouve que c'est beau d'être en colère et c'est beau d'être révolté, quoi. Et c'est aussi une énergie physique. Mmh. Donc, je me suis aussi raccrochée. C'est aussi pour ça qu'un texte comme ça peut me parler. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui peut se traduire physiquement dans le corps, qui est très concret, quoi. Et qui n'est pas de l'ordre de la violence, du pathos, que je déteste. Okay. Je leur donne plutôt... J'essaie de déployer un univers autour de ce que je leur propose. Et là, on droit du thème, de cette notion de soulèvement, les tableaux de Bruegel, cette peinture-là, Games of Thrones, enfin tout ce que je viens de raconter là, en fait. C'est plutôt des éléments que je donne. Et puis, il y avait cette installation qu'on a mis en... Et là encore, on ne peut pas tout raconter. Mais cette installation fait qu'il y a... On a travaillé le corps aussi, où les danseurs ont des choses à faire réellement. Avec des objets. Donc des objets qu'ils ont à manipuler réellement, qui ont leur poids, leur réalité, leur... voilà. Et donc ça les met naturellement, spontanément dans quelque chose. Ils ne sont pas là pour incarner le sentiment qu'on devrait avoir de quelque chose. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est... de toute façon, le sentiment... Je ne sais pas.
Ouais. Ouais.
Moi, je cherche des formes. Je cherche à fabriquer une forme qu'à un moment donné, cette forme parle d'elle-même, en fait. Après, tu as parlé du collectif tout à l'heure.
Ouais.
C'est drôle parce que c'est un peu le sujet de la prochaine pièce. Mais,
OK, mais on y va, on y va.
Non, peut-être pas encore.
OK, d'accord.
Mais en tout cas, dans cette notion de collectif, il y a une énorme ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a, évidemment, c'est formidable la colère, j'aime bien me dire une chose et son contraire, hein. C'est formidable la colère et c'est formidable de soulever un peuple comme ça, pour quelle colère et comment et qu'est-ce que ça produit comme violence, ça c'est une autre histoire quand même, et comment est-ce qu'un peuple se soulève et effectivement sans réellement savoir ou sans réellement la force de l'élan et comment elle peut aussi aboutir à des massacres terribles, c'est ce qui est aussi raconté dans la pièce. Parce que c'est quand même, même s'il y a effectivement toujours cet homme qui se relève, quand même tout ça se termine dans le sang.
Ouais, ouais, c'est Moyen Âge.
C'est complètement, c'est trash. Quoi.
Ouais. Et ben, on a sacrément envie de le voir. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça vous donne envie aussi, ça va. Et justement là, on va voir un peu. Est-ce que déjà là, je sais pas, vous avez des questions, des trucs qui vous viennent là, comme ça, ou est-ce qu'on repart sur autre chose? Là, toujours, au départ, c'est un peu « ouais, j'ai des trucs, mais… » Il en faut toujours un au départ.
Non, mais j'allais dire, ouais. Je sais pas si, j'espère que vous n'allez pas être déçus en le voyant, parce que, ouais. En fait, c'est pas, justement, c'est pas non plus les Games of Thrones, les armures, non. C'est dans votre tête que ça va se passer, parce qu'en fait, c'est dans le texte que c'est contenu.
Oui.
Et moi, ce que j'ai quand même envie de dire ça, c'est pourquoi est-ce que je travaille sur du texte et pourquoi est-ce que je suis chorégraphe, mais j'ai cherché plein de moyens de faire arriver la parole, le verbe en tout cas, de plein de manières différentes, parfois de manière complètement poétique et musicale, avec des travail sur de la poésie sonore, parfois avec une parole très, très modeste, pas écrite, comme celle des danseurs sur un plateau, qui disent deux, trois phrases, qui sont juste des pistes. Là, c'est vraiment un texte très littéraire, avec une langue absolument magnifique. Et c'est un texte qui, au départ, n'a rien à voir avec la danse. Et qui n'est pas non plus un texte de théâtre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je me sentirais complètement incapable de mettre en scène un texte de théâtre avec des personnages, le mari, la femme, la maîtresse, l'amant, le machin, je ne sais pas quoi. Non, je sais pas, des dialogues, des trucs.
Le placard.
Le placard, la porte qui s'ouvre. Non, mais enfin, des dialogues, mais même une situation où les personnages, en fait, c'est quelque chose qui est presque antinomique avec l'idée de danse, parce que la danse, on n'est pas en train de faire des personnages ou d'incarner un truc. Et la danse qui essaye de raconter des histoires, par exemple, des histoires sans parole, où il y a des duos comme ça, qui s'aiment, qui se déchirent, qui se repoussent, qui s'attrapent, qui se jettent, qui se prennent, je trouve ça ridicule, vraiment. C'est vraiment tout ce que je déteste, quoi, franchement. Donc c'est pas du tout comme ça que je fonctionne en fait. Encore une fois, c'est plutôt une mise en présence d'objets et de rythmes aussi, parce que c'est beaucoup ça. En fait, le plateau, écrire pour un plateau, c'est écrire du temps. C'est même pas le temps et l'espace, parce qu'en fait, si on écrit du temps, l'espace, il va se mettre en place. C'est que du temps. En fait. Et donc, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ça que je travaille tout le temps. C'est comme ça que je travaille et c'est ça qui donne du sens aux choses, c'est comment ça s'organise dans le temps, musicalement, en fait, musicalement de manière muette, hein, silencieuse même. Mais comment c'est le temps, en fait, qui de ce qui se passe entre les gens, entre les choses, entre un projet qui va s'allumer, entre un truc qui va. C'est ça qui va faire le récit. Et pas du tout ce que les acteurs vont porter sur le plateau. Et moi, les comédiens qui me bouleversent. Je ne sais pas si vous avez été voir La Mante anglaise, par exemple. Mais quand on entend tout d'un coup Dominique Raymond arriver sur le plateau et découper son texte avec tout l'implicite entre chaque mot, c'est que du temps, mais alors... Là, ça vaut la peine de voir le texte au plateau plutôt que de lire le livre. Parce que sinon, moi, je préfère lire le livre en général,
oui.
En fait. Mais là, tout d'un coup, parce que justement, il y a un travail d'une artiste qui s'empare du truc et crée son propre temps, sa propre temporalité à partir d'un texte, quoi.
Ça, c'était un peu une question, moi, qui évidemment, me travaille, c'est... Est-ce que tu as voulu à la fin te dire, est-ce qu'on se dit que, voilà, quand on a, ah ok, là c'est la bonne version, est-ce que ce qui caractérise la bonne version pour toi, c'est de te dire, là en fait c'est un spectacle que je trouve incarné, que je trouve puissant, ou est-ce que c'est, j'ai réussi à porter au plateau le texte en fait ?
J'ai réussi à porter au plateau le texte.
Ouais, ok.
Ouais.
Ouais, toi, pour toi, là, il y a vraiment ce travail de... Parce que ça aurait pu être aussi quelque chose qui devient... c'est-à-dire, tu pars du texte et puis ça devient quelque chose de complètement autre et...
Bien sûr que ça devient quelque chose de complètement autre. Mais c'est ce texte-là qu'on entend, je trouve qu'on l'entend. Et si on ne l'avait pas entendu, pour moi, j'aurais raté le truc.
Ouais, c'est ça. Toi, tu as vraiment une volonté de transposition. C'est pas un point de départ, c'est aussi le point d'arrivée, quoi.
Dans ce cas-là, oui.
Oui, d'accord.
Il y a plein de manières de...
Oui, non, j'entends. Voilà. Là, je parle vraiment dans ce cas-là, oui. de ce texte-là. Mm. Voilà. Wow, trop bien. Oui, ouais. Super.
Je voulais parler juste du texte. Est-ce que le comédien qui est au plateau dit le texte de manière compréhensible ou est-ce qu'il joue sur la musicalité des mots ou est-ce qu'il est très neutre?
Alors, le comédien, c'est Laurent Poitrenaud. Donc, il n'est jamais très neutre, hein, Laurent Poitrenaud. Il est quand même très comédien. Et je voulais que ce soit un vrai comédien, justement. Par contre, il a une intelligence du texte. Et donc, il rend le texte extrêmement intelligible. Et il le lit quasiment dans son entièreté, de manière à ce que tout le monde l'entende bien.
Et c'est toi qui l'as dirigé dans
ce... Rien du tout, non. Non. Laurent, il est arrivé, on a fait un premier enregistrement à Paris chez Benoît et Benjamin. Je lui avais donné le texte et il l'a lu et en fait, bah, c'est ça qui est incroyable chez un comédien comme ça, quoi. C'est-à-dire que, qu'il y a quand même... c'est qu'immédiatement, il y a tout le sens du truc, voilà. Et puis, on ne pas dire grand-chose aux comédiens, en fait. Donc, de temps en temps, j'ai envie de freiner un petit peu, mais en fait, on ne peut pas dire grand-chose aux comédiens, parce que les comédiens, ils sont super fragiles. Et il ne faut pas les déstabiliser trop, quoi.
Oui, je voulais ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un spectacle du même genre, et donc c'est quelque chose que vous réalisez régulièrement, enfin, assez souvent. Mais le fait d'avoir un texte qui est lu, avec, comment dire, personnalité, etc., et d'avoir autour... un spectacle, dimension, etc. Est-ce que ça ne, est-ce que ça crée pas une illustration plutôt du texte? Comment vous avez pu équilibrer les deux entre le texte et puis votre,
comment dire, la mise en scène, oui, oui. Ben, alors déjà, donc c'est pas du tout un truc que je fais régulièrement. C'était la première fois que je m'attaquais à un texte comme ça dans son entièreté. J'ai travaillé sur, c'est pas vrai en fait ce que je suis en train de dire, mais je m'étais déjà attaquée à des textes dans leur entièreté, mais à chaque fois d'une manière différente, et c'était pas des textes lus. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur des textes que je donnais aux comédiens ou que je lisais moi-même à l'oreillette. Donc j'ai le texte dans l'oreille et je le dis en même temps. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de lire un texte, et pas non plus la même chose que de le jouer. C'est encore complètement autre chose. Et j'aimais beaucoup ce rapport parce que ça donnait une espèce de distance par rapport au jeu et quelque chose justement d'assez musical et d'un espèce de trouble, de désincarnation du texte que j'aimais beaucoup. Une lecture comme ça, incarnée par un comédien, c'est la première fois que je le fais. Mais justement, effectivement, ça a été la plus grosse difficulté, ça a été ça. De se dire comment est-ce que on va pas du tout être dans l'illustration, mais en même temps on va pas non plus faire n'importe quoi à côté, quoi. Qu'est-ce qui fait sens? Donc j'ai essayé de faire quelque chose. Ben, vous me direz si ça.
Il faut les voir pour.
Voilà. Ah oui, ça il faut les voir. Ah oui, oui.
Est-ce que il y a la forme littéraire quand même de l'œuvre qui est présentée là? Parce que à l'inverse, quand on va au cinéma, on peut avoir lu en avant le texte ou le livre qui va être transposé au cinéma. Et là, peu importe ce qu'on voit au cinéma, on a nos propres images. Et de fait, parfois, on est ébloui par l'autre vision du cinéma, enfin du metteur en scène ou l'histoire racontée par les comédiens. Mais là, on est sur une forme vraiment narrative, très structurée, avec un scénario, un synopsis, de la même manière que l'écriture théâtrale. En fait, on est quand même vachement dirigé, et puis, comme tu l'expliquais, il y a des rebondissements, il y a des séquences qui nous amènent à quelque chose de narratif qui ne gêne pas si on le lit avant. Mais, alors moi, je ne le lirai pas avant, parce que comme je vais voir le spectacle, je préfère, pour le coup, enfin, moi, il me semble que, pour le coup, la forme narrative nous invite plus à lire l'œuvre après, pour être un peu plus, je dirais, innocent à la découverte de la transcription que tu as fait, plutôt que l'inverse.
Ben, en fait, quand on parle de... Bien sûr, c'est une narration.
Voilà, c'est...
Mais ce qui est en premier plan quand même de ce texte, c'est une langue.
Oui, c'est ça.
Incroyable. Oui. C'est une langue tellement imagée, tellement magnifiquement écrite. Et puis c'est une langue, du coup, qui se parle quand même, puisque c'est justement une parole de tribun, de prédicateur, il y a des discours, il y a des extraits des textes de Münzer, des vrais textes de Münzer, dont le sermon au prince, par exemple, où il exhorte les paysans à se révolter contre l'Église, contre l'État, contre les puissants, contre les princes, à aller tous les désinguer, les tuer, les assassiner. Il est fou, en fait. C'est un illuminé, hein. C'est pas seulement c'est lui, c'est Vuillard parlant au travers de ce personnage-là et essayant en plus de nous faire passer ce qu'il a envie de nous faire passer sur les tribuns d'aujourd'hui, quand même. ça donne quelque chose qui est vraiment une langue. Bien sûr qu'il y a un récit qui n'est pas évident à suivre d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs personnages, et ça m'étonnerait que vous le suiviez en une fois, parce que moi-même, en l'ayant suivi 15 fois, c'est très compliqué, parce que les personnages se ressemblent, les situations se ressemblent. Au bout d'un moment, c'est plus ça qu'on écoute. C'est justement une énergie, un flot de paroles qui emmène tout sur son passage, quoi.
Ouais. Souvent, dans vos pièces, il y a ce côté aussi de cette distance et cet humour qu'on peut trouver. Comment peut-on rendre ce texte fort, distancé avec justement peut-être cette chose de l'humour, de la distance grince, qui peut être presque grincée, qui peut peut-être en ce moment et dans cette période des Gilets jaunes et dans le monde d'aujourd'hui où on a de plus en plus de mal finalement d'être dans la distance et l'humour. On a tendance justement d'être dans la colère. Et donc, d'habitude, quand on va voir vos pièces, il y a toujours cette chose-là qui décapsule, qui nous permet quand même d'être joyeux, heureux, ou bien même de penser que le monde va aller mieux.
Bon, là, on n'est pas mort de rire, hein, quand même. mais en fait... Vuillard a beaucoup d'humour dans son écriture, parce que justement, c'est tellement énorme, la violence, le cynisme, l'horreur du pouvoir, de l'argent, des puissants, de l'Église, de l'hypocrisie, qu'il a une manière de s'en... il a toujours une manière d'avoir de l'humour, quand même. Enfin, de l'humour, c'est pas de l'humour, c'est quand même de dire, mais regardez! Jusqu'où est-ce qu'on est capable d'aller? En fait, c'est ça. Et c'est nous qui écoutons et qui lisons, qui avons... On en finit par en sourire, hein, parce que, plutôt qu'en pleurer, quoi. Mais c'est peut-être les limites, justement, la colère. C'est super, la colère. Mais la colère, quand on va jusqu'au bout de la colère... C'est d'ailleurs une expérience que j'ai fait moi-même. Quand je suis sortie de l'Opéra de Paris, j'étais faire un stage de clown. J'étais complètement, je ne savais pas du tout quoi faire de ma peau pour essayer de me débarrasser de cette chose qu'on m'avait mis sur le corps. Et donc, je suis allée faire un stage de clown. Et bon, évidemment, j'avais 23 ans, j'étais super jolie, toute mince. Donc, faire le clown, ce n'était pas évident, quoi, quand même. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à faire rire tout le monde à un moment donné parce que je me suis mise dans une colère. Et on peut demander à Betty, à l'équipe du CCN, je suis quelqu'un qui peut être drôle malgré moi. Non ? Quand même. Voilà. Donc, je pense que l'humour, c'est pas seulement ça. C'est des gens qui sont drôles quand ils sont drôles malgré eux. Parce que justement, ils sont dépassés par quelque chose. Et notamment, parfois, par la colère, quoi. Quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas un minimum de ça, très vite, on tombe dans la bêtise, je trouve. Quand même. Donc, voilà.
Il y a des séquences dans le texte hein, qui sont effectivement très fortes, mais drôles. Par exemple, il y a un truc, sans vous révéler, il y a un moment où le roi va négocier. Quoi. Le roi va négocier parce qu'il y a un moment où ça devient critique. Et le roi, il est jeune, il est, voilà, à ce moment-là, je crois qu'il a 15-16 ans, un truc comme ça. Et en fait, il dit que oui, il va bien sûr accéder aux demandes du peuple et tout. Et en fait, Éric Vuillard, il décrit les archives historiques. Donc, il décrit aussi, donc il dit, le roi l'assure, il écoutera le peuple, il a mis une petite toque violette de soie dorée, voilà, et il opine de la du chef dans son costume, machin. Et donc, en fait, on se rend compte que le mec est devant une assemblée criarde de gens qui meurent de faim. Et lui, il est venu leur dire « Je vous ai compris », en atour absolument incroyable, en disant « Oui, alors là, vraiment, je suis avec le peuple, moi, maintenant. » Parce qu'en fait, il l'encercle, en fait. Et que donc, là, il est en danger de mort. Et donc, voilà. Mais on comprend très bien dans la description est très drôle, de cynisme de la situation. Et on sent bien que ça ne va pas vraiment le faire, quoi. Et donc, il y a aussi une sorte de forme de désespoir de la chute qui est contrecarré par en fait aussi le ridicule, c'est un peu comme le gentelet là, sur la bataille dans un cours, où c'est vraiment c'est des mecs qui prennent des décisions absurdes par pur ego, puis en
génial.
Même temps qui...
où ils s'enfoncent dans la ouais. boue, dans leur armure, voilà. et en fait, ils sont tous jusque-là, et qu'au moment où ils chargent, ils sont coincés dans la boue, dans leur armure, avec leurs oriflammes et leurs trucs.
Voilà, l'humour, il est plus très là, drôle. En fait. Il est plus là que dans
l'humour du tragique, c'est voilà. En fait, il n'y a pas d'humour sans tragique, hein. Sinon, c'est les comiques de M6, quoi. Mais sinon, voilà, l'humour, c'est avant tout du tragique, quand même. C'est le propre de l'homme.
Est-ce que vous avez tous envie d'aller le voir, déjà? Ouais, bon, déjà. Ouais, déjà, ça, c'est quand même très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Quoi? Moi, vraiment, je vous invite à aller découvrir ce texte. Je pense que le mettre en moi, quand j'ai appris qu'il y avait cette adaptation, j'étais très content parce que c'est vraiment un texte, en fait, quand vous le lisez, donc vous le lirez après, vous le lirez si vous voulez, mais en tout cas, vous entendez. Alors, nous, on a reçu Eric Vuillard, donc on entend même sa voix en Dolby Surround, qu'il est très bavard. Mais c'est un texte qu'on entend, hein, je crois qu'on peut. C'est vraiment un texte dont on entend la verve. Et en plus, Eric Vuillard, il s'adresse à vous parce qu'il y a des moments où il dit j'imagine qu'il s'est passé ci ou ça. Parce qu'il n'a pas les billes, il n'a pas les archives, voilà, et tout. Je sais qu'il y a eu ça et ça, j'en déduis que, etc. Donc on a aussi une adresse comme ça, un peu plus. Mais vraiment, s'il y a un auteur de littérature là, française contemporaine qui doit être porté sur le plateau, je pense qu'Éric Vuillard, vraiment, enfin, il fait partie de ceux qui vraiment. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais il fait partie vraiment de ceux qui m'apparaissent comme. Et ce texte-là en particulier, vraiment. Parce qu'il a une énergie dans ce qu'il raconte que les autres textes n'ont pas. C'est-à-dire que les autres textes racontent des moments politiques, souvent. Le dernier, par exemple, raconte grosso modo la sortie pathétique et en même temps terrible de la guerre d'Indochine par la France, et des égos des députés en jeu, des usines Michelin qui voulaient leur caoutchouc, de ce genre de trucs. Mais il n'y a pas, là, on est, comme tu dis, on est dans un tumulte, en fait. Hein. Ouais. Il y a un moment, on mélange effectivement les personnages. Voilà. Vous verrez d'ailleurs, il y en a un, il s'appelle Mélenchon. Il apparaît. C'est assez rigolo. Vous ne vous intéresserez pas effectivement à. Bon, après, il y a la figure principale de Thomas Munzer, mais c'est effectivement pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est le souffle, quoi. Et donc, le souffle mis en corps, vraiment, là, c'est. On attend tout ça.
En musique aussi.
Ouais, encore et en musique. Et justement, je crois que c'est une bonne conclusion, une bonne mise en appétit. Bon, ici, vous savez, on est un lieu un peu politique, on est un peu relou. Et en vrai, là, en ce moment, voilà, on est très clair sur le fait qu'il y a une menace sur le monde culturel qui, en ce moment, est extrêmement plus que présente, puisque là, il y a une fenêtre qui vient d'être ouverte par une présidente de la région Pays de la Loire qu'on adore, et qui donc d'autres s'y engouffrent. Hein. Et là, le fait de vous voir d'ailleurs si nombreux ce soir, c'est très chouette. Et c'est, je pense, notre rôle à tous, chacun à son niveau, même dans une simple discussion de café ou quoi, de tordre le cou à l'histoire de le spectacle, c'est élitiste, le milieu de la culture, c'est... les saltimbanques qui vivent de subventions. Et vous voyez, là, ce soir, on a fait que... Enfin, vous en êtes tous persuadés, hein, mais on a fait que discuter de gros trucs, en fait. Hein. On met de la société en branle quand on est là. C'est hyper important. Et donc, n'hésitons pas, je pense, à le proclamer joyeusement pour sortir un peu de ça et garder ça dans nos sociétés, parce que sinon, il y aura... Les espaces d'échange vont être de plus en plus restreints. Et ça, c'est juste pas entendable, quoi, en fait. Parce qu'on sait ce qui arrive derrière, et donc voilà. Et moi, quand je vois tout ce boulot, toute cette richesse, le travail aussi, comme tu le soulignais à l'instant, d'un lieu comme La Coursive, comme les Mille Plateaux, pour s'ouvrir à tous les publics. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de livre en vitrine, par exemple, chez nous, vous avez les Bee Gees, c'est pour que les gens qui ont été traumatisés à l'école par le fait de t'es pas littéraire se sentent le droit de rentrer. Comme tu as le droit d'aller dans un fitness truc si tu n'es pas bon en sport, quoi. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Mais portons ça tous ensemble, en fait. Voilà, vraiment. Et portons nos applaudissements haut et fort sur Oilia. qui ce soir. Ouais, vraiment, enfin, vous, je sais pas, moi, je suis refait de cette soirée. Je suis vraiment très, très content d'avoir fait ça. On a très, très hâte de venir. Pour ce qui est du texte, bah, vous pouvez vous en emparer maintenant. On sera là au moment de, voilà, vous pouvez vous en emparer dans 10 ans aussi, si vous voulez. Il n'y a absolument aucun souci. On sera là aussi aux représentations. Et puis, bah, on se revoit tous. Le 4 et le 5, c'est ça.
Absolument.
Hein, voilà.
Ouais, j'ai la pression, là. Voilà. Et juste parce que tu m'as fait l'ouverture, je signale aussi que nous aussi, on ne met pas les Bee Gees, mais nous, on fait des dance floors.
Ah, mais ils sont trop bien, les dance floors.
Justement, pour dire, en fait, la danse, ça vous concerne, vous aussi, venez danser. Donc, il y en a un le 13 février, avec une DJ qui appartient à un collectif qui s'appelle Sœur Malsaine, et qui, elle, s'appelle Le Saint, et donc qui vient...
C'est déjà complet ou pas?
Ah non, c'est pas complet, donc n'hésitez pas à venir, voilà, le 13 février. Oui, il faut s'inscrire, il faut envoyer un petit... sur le site, et voilà. Oui, faune, c'est pas mal fauve aussi.
Ouais.
Oui, mais bon, c'était... Bon, on peut pas tout... mais il y a faune, effectivement, il y a une soirée faune aussi, le 6. Le dance floor, c'est au centre chorégraphique, donc à la chapelle.
Père Fromentin.
Voilà.
Mais venez pas tous, parce qu'après, il
n'y
a plus
de temps. Mais si, là, tous ensemble. Maintenant, on est tous potes, ici.
Et c'est voilà. En semaine, et ça finit à 11h.
Donc... Oui, c'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est génial, voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu comme ça, avec autant d'intérêt, d'enthousiasme. Pour nous, c'était une première aussi. On est très, très contents. On vous remercie beaucoup. On espère que vous avez passé une bonne soirée, que c'était chouette. Et on se revoit tous maintenant à la coursive mardi prochain.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci.